VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel. Les principaux leaders politiques en Somalie ont fixé au 28 décembre la date de l'élection présidentielle, un scrutin un peu démocratique, déjà repoussé 4 fois. La nouvelle date a été annoncée hier soir dans un communiqué commun publié par le gouvernement, le président des États fédérés et la commission électorale somalienne. Ils ont précisé que ces élections législatives en cours depuis octobre devront être achevées pour le 14 décembre et l'élection des présidents du Sénat et de l'Assemblée pour le 22 décembre. Il s'agit du 4e report, l'élection du président de la Somalie par les sénateurs et députés devait initialement avoir lieu en août, mais a ensuite été repoussée au 10 septembre, au 30 octobre, au 30 novembre et maintenant donc au 28 décembre. En RDC, un deuxième dialogue politique s'est ouvert hier à Kinshasa sous la médiation de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Les protagonistes de la crise en RDC prennent tous part à ces assises de la dernière chance. Joseph Kabila et Étienne Tshisekedi n'étaient pas dans la salle, mais leurs délégués ont pris part à la cérémonie d'ouverture de ce nouveau forum. L'objectif étant de trouver un compromis politique sur la gestion de l'après 19 septembre 2016, date qui marque, selon la Constitution congolaise, la fin du mandat du président Kabila. Mise en perspective, Roger Kalala, Top Congo FM.
6 points de divergence soulevés par les évêques catholiques seront au centre des débats. L'organisation des élections, la gestion de la transition et la compréhension du respect de la Constitution figurent parmi les sujets qui divisent les deux camps. Pour le député Deli Sesanga du Rassemblement des forces acquises au changement, il faut attendre une solution à la crise créée par la majorité présidentielle.
Aujourd'hui, nous nous battons pour la tenue effective des élections présidentielles et législatives dans le meilleur délai et donner à ce pays les institutions légitimes que le peuple mérite.
À la majorité présidentielle, on s'appuie toujours sur l'accord du 18 octobre et on attend des propositions du Rassemblement. Lambert Mende espère un consensus sur les questions qui divisent.
Le dialogue a déjà commencé, il s'est terminé par un consensus. Il y en a qui étaient absents. Nous souhaitons élargir ce consensus dans l'intérêt du pays.
Les travaux ouverts jeudi devraient durer 3 jours selon Mgr Marcel Outembi, Kinshasa, Roger Kalala de Top Congo pour La Voix de l'Amérique.
Au Ghana, le candidat d'opposition Nana Akufo-Addo a proclamé sa victoire jeudi soir dans l'attente des résultats officiels de la présidentielle. Cependant, seuls les résultats de 25 des 275 circonscriptions du pays ont été jusqu'à présent annoncés par la commission électorale et l'avance très courte. Aussi, à chaque nouveau résultat local entre le président Mahamat et qui dispute un second mandat à 58 ans, et M. Akufo-Addo, qui se présente pour la 3e fois. Si personne n'atteint les 50%, les deux adversaires se retrouveront pour un second tour dans 2 semaines.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Mali, le procès d'Amadou Aya Sanogo et 17 co-accusés a été renvoyé au mois de février 2017. Cela pour permettre au laboratoire médical de faire un rapport d'expertise médicale des 21 victimes. Cette demande est une exception des avocats de la défense qui avaient formulé une dizaine d'exceptions. La seule retenue a été l'établissement d'un rapport d'expertise. Le président de la Cour a donné un délai de 45 jours. C'est pour cela qu'il a renvoyé le procès à la première session de la Cour d'assises de l'année 2017. Près de 400 migrants originaires d'Afrique subsaharienne ont forcé aujourd'hui à l'aube la barrière entourant l'enclave espagnole de Ceuta au Maroc. Les migrants ont réussi à forcer les portes en 2 points de la barrière de 6 mètres de haut entourant l'enclave, un assaut au cours duquel 2 gardes civils et 3 migrants ont été légèrement blessés, a précisé à l'AFP un porte-parole de la préfecture de Ceuta. Égypte, 6 policiers ont été tués et 3 autres blessés aujourd'hui au Caire dans l'explosion d'une bombe à un barrage routier. L'attentat qui s'est produit près d'un bâtiment officiel sur la route d'Al-Aham qui mène aux pyramides n'a pas été revendiqué. Quatre passants, en outre, ont été blessés. L'engin explosif avait été placé dans une poubelle ou à côté de celle-ci. L'attentat est le dernier en date d'attaques meurtrières en Égypte, en particulier dans la péninsule du Sinaï, où l'organisation État islamique multiplie les actes de guérilla. On va au Kenya. Les médecins et les infirmiers ont menacé hier d'étendre aux établissements privés la grève qui paralyse depuis lundi les hôpitaux publics du pays. Environ 5 000 professionnels de la santé réclament une augmentation de salaire. Les syndicats ont rejeté mercredi l'offre du gouvernement d'une hausse de 50 000 shillings. Entre-temps, au moins 14 patients sont décédés dans des hôpitaux publics en raison du manque de soins. Écoutez le témoignage d'un médecin qui travaille dans le privé, Dr Eric Nwandui.
C'est vraiment la paralysie totale. Tous les hôpitaux sont vides. Les patients ont dû quitter à partir de ce lundi, le jour où ils ont décidé de commencer la grève. On voit que vraiment c'est de la paralysie totale. Rien ne fonctionne. Et nous qui sommes dans le secteur privé, on est débordés par les patients parce qu'ils quittent le secteur public pour le secteur privé. On a vu dernièrement des patients qui étaient dans des transports publics avec des sondes nasogastriques. C'est vraiment très grave ce qui se passe ici au Kenya.
Dr Eric Nwandi à Nyeri au Kenya.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique en RDC sur 97.4 à Bukavu.
Les troupes du régime syrien bombardaient violemment à l'artillerie ce vendredi les derniers quartiers aux mains des rebelles à Alep, malgré l'annonce par l'allié russe d'un arrêt des opérations de combat pour permettre l'évacuation de milliers de civils pris au piège. L'armée de l'air a en revanche suspendu ses frappes depuis jeudi soir sur ces quartiers situés dans le sud de la partie orientale de la deuxième ville du pays en guerre, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme et un correspondant de l'AFP. Pour le président syrien, la conquête de cette ville représenterait un tournant dans la guerre. Pour une analyse, Jacques Aristide adjoint Philippe Migaud, directeur de recherche à l'IRIS et spécialiste de la Russie.
Et oui, parce que c'est la reprise de la dernière grande agglomération qui restait aux mains de l'opposition à Bachar el-Assad. Que la chute d'Alep est symbolique parce que c'est la reprise d'une place forte des opposants à Bachar el-Assad. Et puis aussi, cette prise de la ville va permettre de libérer des moyens militaires qui vont permettre de poursuivre la reconquête de la Syrie, que ce soit dans la région d'Idlib ou davantage vers l'est, dans la direction de Raqqa. Donc oui, très clairement, c'est une très grande victoire et c'est vraisemblablement un tournant dans la guerre, oui.
La chute d'Alep témoigne-t-elle de l'échec de la communauté internationale, mais d'une montée en puissance de la Russie avant l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche le 20 janvier ?
Alors je pense que la montée en puissance de la Russie, elle est évidente et cela depuis plusieurs années maintenant, donc elle est absolument incontestable, que ce soit dans le dossier syrien ou dans d'autres dossiers. Est-ce que c'est un échec de la communauté internationale ? C'est très clairement un échec occidental, dans la mesure où les Américains et leurs alliés n'ont pas réussi à forcer la main à la Russie sur le dossier syrien. Pour autant, est-ce un échec de la communauté internationale ? Non, je ne pense pas, parce que la communauté internationale ne se réduit pas aux seuls occidentaux. Très clairement, c'est un échec des occidentaux vis-à-vis de la Russie. Ça, oui, c'est certain. Je pense que le plus probable, c'est que Alep, les restes de la poche d'Alep seront liquidés avant la fin de l'année 2016.
Donald Trump, pendant la campagne électorale, a été très critiqué par ses adversaires ici aux États-Unis au sujet de ses supposées relations avec la Russie, avec Vladimir Poutine. Quelle lecture faites-vous de toute cette situation ?
Écoutez, je pense que c'est une défaite majeure pour l'administration Obama peu de temps avant le départ de Barack Obama de la Maison Blanche. C'est vraisemblablement une leçon pour les Occidentaux qui ne voulaient pas admettre depuis plusieurs années que la Russie était revenue au premier plan sur la scène internationale. Et je pense que Donald Trump va pouvoir repartir sur de nouvelles bases avec la Russie, sur des bases, j'imagine, plus réalistes, en tout cas j'espère plus réalistes, de ce qu'est la puissance russe et de l'intérêt de s'en faire un partenaire et non pas un ennemi sur la scène internationale.
Philippe Migaud de l'Institut des Relations internationales et stratégiques en ligne de Paris. Les députés sud-coréens ont voté aujourd'hui la destitution de la présidente Park Geun-hye, la privant de ses vastes pouvoirs exécutifs, conséquence d'un vaste scandale de corruption qui a précipité dans la rue des millions de personnes et paralysé son gouvernement. L'adoption par l'Assemblée nationale de cette motion de destitution transfère l'autorité de Mme Park au Premier ministre. Les pouvoirs de Mme Park sont suspendus le temps que la Cour constitutionnelle entérine ou non la destitution. Ce processus durant lequel Mme Park n'aura plus de présidentiel que le titre pourrait durer jusqu'à 6 mois avec pour toile de fond l'incertitude et la paralysie politique. Le prochain journal, c'est dans 50 minutes. Il vous sera présenté par Henri Francisque. Merci de nous avoir suivis. Bon après-midi, bon week-end à tous nos éditeurs.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique. Ce n'est qu'une